Tandis que l'Évangile nous parle des tentations du Christ au désert et des débuts de sa prédication, moi j'aimerais vous parler, de prendre comme accroche, l'épître de saint Pierre. C'est beau de voir comment les apôtres, se font le miroir du Christ. Saint Pierre, lui, commence son épître en disant « Bien-aimé ». C'est pas seulement la charité fraternelle qui le pousse à prononcer ces mots « Bien-aimé », c'est le regard de Dieu sur chacun d'entre nous. Car cette parole, certes, adressée par l'intermédiaire des successeurs des apôtres d'abord, de leurs successeurs ensuite, est indirecte, mais elle reflète l'amour de Dieu, et c'est le but. Bien-aimé, c'est Jésus qui prononce cette parole derrière saint Pierre, qui la répète. Saint Jean, lui, dans ses épîtres, il dit « petit enfant ». C'est très beau, parce que ça peut pas venir de Jean, bien sûr, ça vient de Jean. Mais c'est le regard du Christ sur les âmes en général. Donc ça, c'est la disposition. La disposition, c'est une parole aimante qui semble descendre du ciel pour nous instruire, pour nous renforcer, pour nous consoler peut-être, pour nous affermir en tout cas. Il commence, Saint-Pierre, ici, dans ce passage, par mentionner la passion et les leçons de la passion. Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Et j'arrive au passage que je veux commenter. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est une grande leçon, ça. C'est pas la chair qui nous sauve. La chair, le corps, la vie terrestre, extérieure, matérielle, et les activités qui vont avec. Mais c'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est une autre faculté intérieure, l'esprit, ou l'âme, appelons-le comme nous le voudrons. Et c'est là qu'est le siège de la vie. Pas de la vie biologique, bien sûr, mais de la seule vie, celle qui fait durer éternellement. Si le Christ a accepté que son corps meure, c'est bien sûr pour épouser la condition humaine, blessée par le péché, depuis le péché originel, mais c'est aussi pour nous montrer, pour mettre à sa place, à sa juste place, les choses qui dépendent du corps et les choses qui dépendent de l'esprit, de l'âme. Ayons toujours, et c'est le but du carême, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Jésus, dans son offre de la résurrection, ne nous fait pas la promesse fallacieuse d'une vie éternelle sur la terre. Il ne nous dit pas que nous ne mourrons pas physiquement. Et il nous montre l'exemple pour nous affermir, pour que nous n'ayons pas peur. Il y a ensuite cette mort du Christ que Pierre nous décrit. Elle consiste dans la descente aux enfers. La descente aux enfers, mais pas une descente paralysée, comme Luther se l'imaginait. Luther imaginait que le Christ, d'une manière totalement erronée, que le Christ était dans la situation du damné, et du pire des damnés, puisqu'il portait le péché du monde, et qu'il descendait incapable d'ouvrir la bouche, prisonnier du démon, et que c'est Dieu qui, de l'extérieur, depuis l'éternité, est venu le délivrer, comme l'ange viendra délivrer Saint-Pierre lorsqu'il est arrêté. Eh bien, pas du tout. Ça, c'est une vision fausse. Saint-Pierre affirme que non seulement il est descendu dans les enfers, mais qu'il est descendu pour prêcher aux âmes qui étaient en prison. Pour prêcher, c'est très actif. Il est dans toute la disposition de sa nature divine. Il descend comme un roi qui vient conquérir ou sauver, racheter ces âmes qui attendaient sa venue. La descente aux enfers est un dogme d'une part, un dogme glorieux. Les enfers, c'est ténébreux, mais lui, le Christ, il est lumineux. Et c'est vraiment ça commence, la résurrection commence là, par une descente paradoxale. Il descend encore plus bas que la terre, il descend jusqu'à ce monde des morts où les âmes subsistaient. Ça prouve bien que la vie n'est pas dans le corps, mais dans les âmes. Mais dans un royaume obscur, parce que dans ce royaume, il n'y avait pas Dieu. Il y a, nous dit Jésus dans sa parabole à Lazare, à propos de Lazare, du pauvre Lazare, qu'il y a que tous les morts sont réunis en une seule demeure, mais qu'elle est divisée en deux. Il y a le sein d'Abraham, donc le sein des croyants, ceux qui espèrent que Dieu viendra un jour les tirer de là. Et il y a la gaine de feu, ceux qui de toute façon n'écouteront pas sa prédication et qui resteront dans ces enfers une fois que Jésus et les âmes des justes en seront sortis. Et ils en sortent au moment de la résurrection du Seigneur. Pas pour s'arrêter sur la terre, quelques-uns, si, il y a cette mention que plusieurs virent des saints ressuscités et se montrer dans Jérusalem. Mais pas pour longtemps. Ils ont accompagné le Christ dans sa montée, dans son ascension auprès du Père. C'est très beau de voir ça, parce que nous sommes au début du carême, et qu'on peut se demander, mais à quoi bon faire ce temps-là, qui est très austère, c'est un temps de pénitence, c'est un temps où les textes s'accordent à ce qu'on doit vivre, se concentrer sur le péché, sur la lutte contre le péché. Cette visite imprévue de Jésus aux enfers, elle préfigure les visites imprévues que le Seigneur fera dans nos cœurs. Mais souvenons-nous toujours, tu es poussière. Et nous avons d'autant plus besoin de lui, de son secours. Viens me visiter dans cette poussière tant qu'elle est encore animée, biologiquement parlant, Seigneur. Et alors je ne craindrai plus rien car tu m'accompagneras. Et dans la mort physique et dans la résurrection de mon âme. Ensuite, Pierre parle de la figure du déluge. Alors le déluge, c'était un monde où ils étaient descendants soit de Caïn, qui tua son frère Abel, comme on le sait, soit de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, qui a remplacé Abel et qui était le côté lumineux d'Adam et Ève, tandis que Caïn est le côté ténébreux. Ces deux générations ont peuplé la terre, elles se sont accrues. Et à l'époque de Noé, eh bien, ce qui les distinguait, le culte de Dieu ou l'indifférence, voire l'acharnement contre Dieu, eh bien, avait disparu. Il n'y avait plus deux générations, mais une seule. Et c'était celle de Caïn qui avait gagné la partie. L'homme retourne sous la dynamique du péché, eh bien, à la terre et le ciel se ferme pour lui. Noé a été, oui, les figures du baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême ? Le baptême, nous recevons l'Esprit, l'Esprit Saint. Nous sommes baptisés dans l'eau, mais pas seulement dans l'eau, dans l'Esprit Saint. Et ça nous permet de voguer au-dessus des eaux, une autre figure classique du baptême dans les eaux, c'est le passage de la mer Rouge. Et cette fois, la mer se retire pour laisser le passage aux Hébreux. Et les démons, figurés par les Égyptiens, sont noyés dans les eaux, retenus dans les eaux donc. Les eaux lavent du péché. La prière, puisque nous recevons par le baptême l'Esprit Saint, eh bien, ça consiste à rejoindre cet Esprit Saint qui demeure en nous. C'est le thème de l'inhabitation divine. Oui, le baptême introduit, insuffle en nous l'Esprit Saint, mais pas dans nos corps, dans nos âmes. Aussi, ce n'est pas les souillures extérieures du corps, ce n'est pas les maladies, ce n'est pas les limitations de la condition humaine que l'Esprit Saint vient corriger. Ça ne change rien. D'où l'illusion des hommes. Bien que Dieu n'existe pas, puisque le baptême ne produit rien d'extérieur. Mais le baptême, lui, il nous sert à nous communiquer l'Esprit Saint qui réside alors dans nos âmes. Et il est comme un sceau, vous savez, à la sortie d'Égypte, ce signe, ce sang de l'agneau que les Hébreux devaient mettre sur le pas de leur porte pour être épargnés par l'ange exterminateur. Ce sceau qui est donné aux élus dans l'Apocalypse, là aussi pour les épargner de l'ange qui va frapper les nations. Eh bien, ce sceau, cette inscription dans nos âmes, c'est l'Esprit Saint, sa présence en nous. Et nous serons reconnus par Dieu au dernier jour, par cette présence de l'Esprit. Et c'est lui qui témoignera pour nous. Témoignera de quoi? Que nous avons marché au désert, pendant non seulement un carême, mais pendant le carême de cette vie. Ceux qui attendent un Esprit Saint qui viendrait descendre dans leur cœur et les purifier des souillures extérieures et non pas intérieures. Extérieures, bah, toutes les limitations de la vie, du corps. Ah, si nous étions comme des dieux, nous dirions à nos corps, sois en bonne santé, ne vieillis pas, sois beau, sois fort. Nous dirions à ceux qui peuvent être en position de rivaux ou d'ennemis, taisez-vous, et ils le feraient. Mais nous ne sommes que poussière, si fragile et sans aucun pouvoir. Et les hommes peuvent se désespérer de cela. Mais Dieu n'aime pas la plainte des hommes qui s'affligent de ne pas être des dieux. Il ne l'écoute pas, cette plainte-là. Au contraire, il est encore plus sévère. Pensons que la plainte, la seule plainte qu'il désire entendre de notre bouche, c'est « Moi, petite créature, j'ai osé un jour me prendre pour un Dieu, désirer être pareil à toi. Pardon, mon Dieu. J'étais un insensé à la façon du monde et de ceux qui sont sous son influence. Et Dieu nous pardonnera. Il nous prendra par la main et nous conduira vers les eaux qui rejaillissent en vie éternelle en nous. Le baptême, oui, il nous purifie seulement des souillures intérieures, en particulier de cet orgueil qui nous colle à la peau de l'âme. Les tentations du Christ au désert, c'est un exemple que Jésus nous donne pour ne pas être amorphe face à la tentation. Il faut apprendre justement à considérer le mal non pas comme un destin, quelque chose auquel on ne peut pas échapper, parce qu'il y a le Christ qui est mort sur une croix pour nous. Et nous devons méditer la passion souvent. S'il est mort sur la croix pour nous, c'est pas pour rien. Dire que le mal est un destin, c'est nier l'efficacité de la croix. C'est tenir pour rien le sacrifice du Christ lui-même. Le mal n'est pas un destin. Nous devons combattre en particulier tout ce qui nous afflige, tristesse et assédie. La tristesse, là, qui nous coupe les jambes, l'assédie, c'est l'ennui. Alors, on ne sait pas quoi faire. Et quand on ne sait pas quoi faire, eh bien, les hommes font les pires bêtises qui soient, par ennui. Ils sont capables de déclarer des guerres par ennui, ça fait quoi faire. Ils vivent tout à fait convenablement, mais ils s'ennuient. Alors, ils commencent à regarder chez le voisin, tiens, et ça commence comme ça, etc., etc. Par l'ennui, mais les jeunes font les pires des bêtises. Ils pratiquent la magie. Ils se laissent aller aux drogues, et c'est très destructeur. À une vie privée de sens. Tout ça par ennui. Pas parce qu'ils sont accablés, comme dans certains pays, par la faim et la soif. Non, par ennui. Il faut voir derrière l'ennui, derrière la tristesse en particulier, des démons, des êtres dont il faut se détacher, se détourner. La force de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu oppose, ce que Jésus oppose aux démons au désert. Et dans cette parole de Dieu, parce qu'elle est vivante, c'est-à-dire dans la foi, nous devons vraiment trouver la force de lutter contre ces démons. Alors voilà le thème du carême. Marcher dans le désert, revenir à l'essentiel, certes, mais l'essentiel aussi du combat spirituel, de notre fragilité. Donc nous avons besoin du Seigneur, laissons-nous instruire par lui. Thank you.